Hornung, les aventures de Raffles, le masque noir. Ce n'est pas une sinécure. Je me demande encore ce qui m'a le plus surpris du télégramme appelant mon attention sur une annonce ou de l'annonce elle-même. J'ai la dépêche sous les yeux. Elle fut expédiée de Vera Street à 8 heures du matin, le 11 mai 1897, et reçue avant 8h30 au bureau auxiliaire d'Holloway. Elle me trouva dans ce triste faubourg, n'ayant pas encore fait ma toilette, mais déjà au travail, avant que la chaleur du jour rendît ma mansarde inhabitable. « Voyez l'annonce, monsieur Mathurin, dans Daily Mail, pourrait convenir, essayer, recommanderait, si nécessaire. » Je transcris cette dépêche telle que je la reçus. Elle me coupa la respiration. La signature, composée seulement d'initiales, causait ma surprise. Elle appartenait évidemment à un médecin, un spécialiste décoré, dont le cabinet de consultation se trouvait près de Vere Street et qui autrefois m'avouait pour son parent. Et depuis lors, il me traitait plus ainsi. J'étais devenu une honte pour lui. Comme il me l'avait déclaré, j'avais fait mon lit à ma fantaisie. Je pouvais y mourir sans qu'il s'en préoccupât. Après m'avoir ainsi averti, il avait sonné son domestique et lui avait donné, devant moi, à mon sujet, des instructions d'ostracisme aussi brutales que formelles. Et après un tel accueil, c'était lui qui m'adressait ce télégramme. Mon étonnement n'avait pas de bornes. Je ne pouvais en croire mes yeux, et cependant il n'y avait pas à s'y tromper. Le texte même répondait bien au caractère de mon parent. Il avait économisé les mots au détriment du sens, et pourtant il avait dû payer pour le mot « MR »,« Mathurin ». C'était bien lui, de la tête aux pieds. Il passait pour être charitable et ne voulait pas faire mentir sa réputation. C'était sans nul doute ce motif qu'il avait décidé. Il avait certainement dû éprouver une émotion soudaine, dont parfois sont susceptibles les cœurs les plus durs. Et en lisant les journaux du matin, il avait dû, par hasard, jeter les yeux sur l'annonce en question. Et un remords de conscience l'avait fait penser à moi. Je me décidai bientôt à aller voir ce dont il s'agissait. J'irai le plus tôt possible, bien que je fusse pressé par mon travail. J'étais en train d'écrire une série d'articles sur l'existence dans les prisons et je travaillais d'arrache-pied. Un journal littéraire et philanthropique avait accepté ma copie. J'étais peu payé, mais le peu d'argent que j'en retirais me permettait de vivre. La distribution du courrier de 8 heures m'avait apporté mon premier chèque. Ma position a été bien désespérée en ce moment, puisque je fus obligé d'aller le toucher pour pouvoir acheter le Daily Mail. Que dirais-je de l'annonce? Oh, je ne puis en retrouver le texte. Je me rappelle seulement qu'on demandait à un garde-malade pour un homme âgé de santé chancelante. Un garde-malade! L'ordonnance disait que les gages seraient plus élevés pour un ancien élève de l'université ou d'une école de l'État. Je compris tout de suite qu'il me serait facile d'obtenir cet emploi. Je serais le seul, réunissant ces dernières conditions, qui consentirait à l'accepter. Nul autre ne pouvait se trouver dans une situation aussi navrante que la mienne. De plus, mon parent avait promis de dire quelques mots en ma faveur, et il le ferait certainement. Pourrais-je avoir une meilleure recommandation que la sienne pour obtenir une place de garde-malade ? Je me rendis chez un marchand d'habits avec lequel j'avais déjà fait quelques affaires, me débarrassant peu à peu de ma garde-robe. Une heure plus tard, j'étais vêtu d'un complet propre, quoique démodé, et qui n'était pas encore entièrement défraîchi. J'achetai également un chapeau de paille neuf et je sautai sur l'impérial d'un tramway. L'adresse indiquée par l'annonce était celle d'un appartement situé à Earl's Court, ce qui m'obligea, habitant la banlieue, à faire dans le métropolitain un véritable voyage. Il était midi passé, quand je parvins à Earl's Court Road. Je ressentais de la joie à me retrouver au milieu du monde élégant, de la crainte aussi, car je redoutais de rencontrer d'anciennes connaissances. Mais c'était un jour de chance et je n'aperçus aucun visage connu. En arrivant au but de mon voyage, j'éprouvais quelque embarras. La maison donnait sur une petite rue transversale. Elle me parut peu luxueuse et je plaignis le médecin dont je lus le nom sur la porte. J'avais rêvé à un appartement d'apparence plus grandiose. Il n'y avait pas de balcon, le concierge n'avait pas de livrée, la maison ne possédait pas d'ascenseur et mon malade habitait au troisième étage. Je montais, regrettant d'avoir jadis habité les quartiers riches, et j'étais sans doute perdu dans ma songerie, car je heurtais violemment un pauvre diable qui descendait. Un jeune homme, en redingote, m'ouvrit la porte. « C'est ici que demeure M. Mathurin ?» demandai-je. « Oui, » dit le jeune homme en ricanant. « Je suis venu au sujet de l'annonce qu'il a fait mettre dans le Daily Mail. » « Vous n'êtes que le 39e. Vous avez rencontré le 38e dans l'escalier et la journée n'est pas finie. Excusez-moi si je vous examine. Bon, alors, vous pouvez essayer. Entrez donc, vous êtes parmi les privilégiés. La grande fournée est venue après déjeuner. Maintenant, le concierge renvoie les plus mal nippés. » Il me fit pénétrer dans une pièce vide éclairée par une large fenêtre en saillie dont l'éclairage permit à ma nouvelle connaissance de m'examiner avec encore plus de soin sur toutes les coutures. Il commença ensuite un interrogatoire. « Vous avez appartenu à l'université ?»«
Non. »«
À une école de l'État ?»«
Oui. »«
Laquelle ?» Je la lui fis connaître et il poussa un soupir de soulagement. Oh, « enfin, vous êtes le premier avec lequel je n'ai pas eu à me chicaner sur les établissements qui soient ou non des écoles de l'État. Vous en avez été chassé ?»«
Non, lui dis-je après une légère hésitation. Non, je n'ai pas été renvoyé et j'espère que vous ne me mettrez pas à la porte si je pose une question à mon tour. »«
Certainement non. Êtes-vous le fils de M. Mathurin ?»«
Non, non, je m'appelle Théobald. » « Vous avez pu voir mon nom sur la plaquette. »«
Ah, le médecin, lui dis-je. »« Son médecin, dit Théobald d'un air satisfait. »« Le médecin de M. Mathurin. »«
C'est moi qui lui ai conseillé de prendre un garde malade. »« Il veut, si possible, trouver un homme bien élevé. »«
Je crois bien qu'il consentira à vous recevoir, »« bien qu'il n'ait vu le jour toute la journée que deux ou trois candidats. » Il désire poser lui-même quelques questions. Ce n'est donc pas la peine que je vous en parle. Je vais aller le prévenir de votre visite avant de continuer. »
Il se retira dans une pièce voisine que je l'entendis traverser car l'appartement était très petit. Deux portes se fermèrent et je perçus vaguement le bruit d'une conversation qui dura jusqu'au retour du docteur.
« J'ai pu persuader à mon client de vous recevoir, murmura-t-il, mais je suis loin de vous garantir le résultat. C'est un homme très difficile à satisfaire. Préparez-vous à trouver un malade dont le caractère est aigri. Allez, la place ne sera pas une sinécure, si vous l'obtenez.
Puis-je vous demander quelle est sa maladie ?»«
Bien sûr, mais seulement si vous êtes agréé. »
Le docteur Théobald me montra sur le chemin et, tout en le suivant, je ne pouvais m'empêcher de sourire de l'air de dignité qu'il prit tout à coup. Mais je sentis mon sourire disparaître en traversant une chambre obscure, empoisonnant l'odeur des médicaments, au milieu de laquelle reposait, étendu sur son lit, un homme très amaigri.
« Emmenez-le à la fenêtre ! Emmenez-le à la fenêtre ! » s'écria une voix aigre. Et voyons combien il est. Levez un peu le store, pas tant que cela. Oh, le diable vous emporte, pas tant que cela. »
Le docteur accepta le juron comme s'il faisait partie de ses honoraires. Je ne le plaignais plus, car je comprenais que ce client devait à lui seul constituer sa clientèle. et que pour mon compte, si je pouvais, avec l'aide du docteur, conserver la vie au malade, je trouverais près de lui une position assurée. Monsieur Mathurin était d'une pâleur extrême, et je voyais dans le demi-jour de la chambre briller l'émail de ses dents comme si ses lèvres exsangues ne pouvaient les couvrir que lorsqu'il prenait la parole. Il était impossible de concevoir un spectacle plus horrible que ce sourire perpétuel. Vous pensez pouvoir me soigner? Dit-il. Mais j'en suis certain, monsieur. Tout seul, entendez-vous bien, je ne veux pas avoir d'autres domestiques. Vous aurez à faire votre cuisine et la mienne. Croyez-vous pouvoir faire tout cela? Oui, monsieur, je le crois. Pourquoi? Avez-vous de l'expérience sur ce point? Ah non, monsieur, aucune. Alors pourquoi prétendez-vous en avoir? Ben, je voulais seulement dire que je ferai de mon mieux. Oh, seulement dire, seulement dire. Avez-vous toujours fait de votre mieux? Je baissai la tête. J'avais reçu en plein le choc, et il y avait dans les yeux de mon malade quelque chose qui m'empêcha de mentir. Non, monsieur, non, pas toujours, répondis-je franchement. Hé, 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 ricana le vieux. Vous faites bien de l'avouer. Vous faites bien, très bien. Si vous n'aviez pas avoué, vous seriez déjà dehors. Vous avez sauvé votre pitance. Vous garderez peut-être. Ainsi, vous avez été élevé dans une école de l'État et dans une très bonne école encore. Mais vous n'avez jamais appartenu à une université, c'est bien ça. Absolument. Qu'avez-vous fait en quittant l'école? J'ai fait un héritage. Et après? Oh, je l'ai mangé. Et après? Je me tins quoi comme un imbécile. Et après, vous dis-je? Oh, un de mes parents pourrait vous le dire si vous le lui demandiez. C'est un homme très en vue qui m'a promis de vous parler en ma faveur. Je préfère ne rien ajouter. Ah, vous parlerez, vous parlerez. Croyez-vous donc que je puisse croire qu'un ancien élève d'une école de l'école d'État demanderait une place pareille si on lui était rien arrivé? Non, ce que je veux, c'est un jeune homme de bonne famille qui ait eu des malheurs, peu m'importe lesquels, mais il faut que vous me disiez ce qui vous est arrivé. Cela vous gêne peut-être de le dire devant un autre que moi. Vous pouvez aller au diable, docteur, si vous ne voulez pas comprendre, fit-il en s'adressant au médecin. Cet homme fera l'affaire ou non. Dans tous les cas, cela ne vous regarde pas avant que je vous l'envoie pour vous dire si oui ou non je le garde. Sortez, docteur, sortez. Et si vous avez à vous plaindre, mettez cela sur la note. Pendant cet entretien, la voix du malade s'était peu à peu renforcée, et la dernière insulte qu'il proféra contre son médecin dévoué fut lancée d'une voix forte. Celui-ci se retira, et je compris qu'il prendrait son client au mot et ne manquerait pas de forcer sa note. La porte de la chambre se ferma, puis celle du palier. Enfin, nous entendîmes le docteur descendre l'escalier. Je me trouvais seul dans l'appartement, en compagnie de ce vieillard terrible et singulier. Oh, quel débarras! S'exclama le malade en s'appuyant sur son coude. Je ne suis plus qu'un vieux corps délabré, mais au moins j'ai encore une âme perdue qui m'appartient. C'est pourquoi j'ai besoin d'un homme aussi taré que moi. Je me sens trop sous la coupe de ce médecin. Il me laisse même pas fumer, il me surveille toute la journée pour m'en empêcher. Vous trouverez des cigarettes derrière ce tableau de la Vierge à la Hèze. C'était une gravure représentant le célèbre tableau de Raphaël, et le cadre était penché contre le mur. Quand je le touchais, un paquet de cigarettes tomba sur le sol. Merci, du feu maintenant. Je fis craquer une allumette, elle atteint entre mes doigts, tandis que le malade aspirait une bouffée. Tout à coup, je perdis le souffle, car je ne me rappelais mon bon vieil ami Ralph. Un cercle de fumée digne de mon camarade sortait des lèvres du malade. Et maintenant, prenez aussi une cigarette. J'en ai fumé de plus mauvaises, bien que celle-ci Le Vaupol est Sullivan. Je ne puis répéter ce que je dis alors. Je ne me rappelle plus aucun détail. Tout ce que je sais, tout ce que je sus, c'est que j'avais alors devant moi Raffles en chair et en os. Oui, Bernie, j'ai nagé comme un désespéré. D'ailleurs, un bon nageur ne peut se noyer dans la Méditerranée. C'est au coucher du soleil que je dois mon salut. Car la mer était en feu. Oh, je n'ai plongé qu'un instant et j'ai eu soin de me tenir dans la traînée lumineuse. Et quand l'astre flamboyant disparut, j'avais déjà gagné un mile et jusqu'alors j'étais resté invisible. C'est là-dessus que j'avais compté et j'ai toujours l'espoir qu'on n'a pas cru un suicide, car pour ma gloire future, je préférais être pendu que de laisser croire à une lâcheté dans ma lutte pour la vie. Oh, mon bon ami, quelle joie pour moi de me retrouver auprès de vous. Je me revois encore à votre côté, à bord du paquebot allemand. Il me semble que tout ce qui s'est passé depuis n'a été qu'un cauchemar. Oh, je croyais bien alors que tout était fini. Vous pouviez le croire, Bonny. J'ai joué mon va-tout et j'ai réussi. Plus tard, je vous donnerai des détails. Oh, je ne suis pas pressé de les connaître. C'est assez de vous voir près de moi. Peu m'importe comment vous avez pu vous sauver, l'essentiel, c'est que vous vous soyez tiré d'affaire. Cependant, je crains que vous ne soyez bien malade. Avant de vous laisser parler, permettez-moi de vous regarder. Je levai un des stores et, m'étant assis sur le lit, je l'examinai. Il me fut impossible de définir l'état de sa santé. Mais au premier regard, je fus convaincu que mon camarade Raffles ne tenait plus jamais, ne serait plus jamais tel qu'il était jadis. Il avait vieilli de 20 années. On lui donnait facilement 50 ans. Ses cheveux étaient devenus blancs et sur ce point-là, toute tromperie était impossible. Sa figure avait pâli, des rides profondes et nombreuses s'étaient creusées autour de ses yeux et de sa bouche, mais son regard, aussi vif et aussi ardent que jamais, brillait comme l'acier. L'expression de ses lèvres serrant la cigarette n'avait pas changé. Elles étaient restées fortes et sans scrupules, comme l'homme lui-même. C'était donc seulement la force physique qui semblait l'avoir abandonné. C'en était assez pour attendrir ma sympathie envers ce gredin qui m'était resté si cher, bien qu'il lui fait rompre avec toutes les affections qu'il n'avait point pour objet. « Vous me trouvez vieilli ?» dit-il enfin. « Un peu, répondis-je, mais surtout à cause de vos cheveux. Je vous raconterai une histoire là-dessus quand vous n'auriez rien de mieux à nous dire. Mais j'ai toujours pensé que c'était cette traversée à la nage qui avait été la cause première. Tout ce que je puis vous dire aujourd'hui, c'est que l'île d'Elbe est un pays bien extraordinaire et Naples un pays plus étonnant encore. Vous y êtes allé? Plutôt! C'est un paradis pour les gaillards tels que nous. Mais rien ne vaut Londres pour échapper aux curieux. Quand on sait s'y prendre, il est impossible de se faire pincer. Si ce malheur arrive, on ne peut que faire son mea culpa. Mais voilà donc revenu depuis 6 semaines et je vais reprendre ma petite existence. Mais vraiment, mon vieux, êtes-vous en état de la recommencer? En état, mon cher Benny, mais je suis mort. Je suis au fond de la mer, ne l'oubliez pas, je vous en supplie. Mais vous vous portez bien malgré tout, n'est-ce pas? Non, je suis à moitié empoisonné par les drogues de Théobald, les exécrables cigarettes que je fume et le séjour au lit m'a rendu faible comme un poulet. Alors pourquoi y restez-vous, Raffles? Parce que je suis encore mieux là qu'en prison, comme vous devez le savoir par expérience, mon bon vieux. Je vous l'ai dit, je suis mort et je ne crains qu'une chose, c'est qu'un accident ne me rende la vie. Comprenez-vous? Je n'ose pas sortir le jour. Vous n'avez pas idée du nombre incalculable de choses innocentes qu'il est impossible à un mort d'accomplir. Je ne puis même pas fumer des salivanes, car pendant ma vie aucun homme n'y tenait autant que moi. Et je crains toujours d'éveiller les soupçons. Et pour quel motif avez-vous choisi cette maison? Ben, je voulais un appartement. Au cours de mon voyage de retour, un passager du bateau me parla de celui-ci. C'était un brave garçon, Benny. Ce fut lui qui donna des références sur mon compte quand il fallut signer le bail. On m'a apporté ici, étendu sur un brancard. Ma situation inspirait la pitié. Et je passais pour un vieil Australien qui arrivait sans connaître un petit vivre en Angleterre. On m'avait ordonné, comme dernier espoir, d'aller habiter l'Engadine. Je n'avais pas voulu m'y rendre et, obéissant à un sentiment d'une délicatesse infinie, j'avais tenu à venir mourir à Londres dans ma patrie. Telle était l'histoire de M. Mathurin. Si cela ne vous touche pas au cœur, Benny, vous serez le premier à ne pas vous y laisser prendre. Mais celui qui fut le premier pincé, ce fut l'ami Théobald. Je suis son meilleur client. Je constitue à moi seul tout son revenu. Et je puis même dire que c'est mon argent qui va lui permettre de se marier. Il n'a rien deviné. Il connaît tout. Mais il ne soupçonne pas que je le sais. Et il n'existe pas dans le dictionnaire une seule maladie pour laquelle il ne m'ait traité. Pour lui rendre justice, je crois qu'il me considère comme un hypocondriaque de la plus belle eau, mais c'est un gaillard qui ira loin s'il sait se conduire. Il a passé ici la moitié de ses nuits et je sais ce que ce dévouement me coûte. Alors l'argent ne manque donc pas, mon vieux camarade. Il n'a pas manqué jusqu'ici, Benny, je ne puis en dire davantage. Mais je ne vois pas pourquoi il ferait défaut désormais. Je n'avais pas à m'enquérir d'où venait l'argent. Est-ce que cela me regardait? Je demandais seulement à ce brave Raffles comment il avait retrouvé ma trace. Il accueillit ma demande avec un sourire de commisération, et après avoir lancé quelques bouffées de fumée blanche, il me répondit. Je m'attendais à cette question, Benny. Voilà longtemps qu'il m'est arrivé de faire une chose qui soit plus à mon honneur. D'abord, j'ai commencé par deviner que c'était vous qui écriviez ces articles sur nos prisons. Il n'était pas signé, mais je reconnus facilement le style de mon petit camarade. Où avez-vous déniché mon adresse? Chez votre éditeur. Je suis allé lui faire une visite nocturne. Car il m'arrive quelquefois, comme à tous les revenants, de sortir la nuit. Je l'obtins en 5 minutes. Je lui dis que j'étais votre unique parent, que vous cachiez votre nom sous un pseudonyme, et que s'il le désirait, je me ferais connaître. Il n'insista pas, Benny, et je partis avec votre adresse en poche. La nuit dernière? Non, non, la semaine dernière. Ainsi, l'annonce émanait de vous, de même que le télégramme. Mais pourquoi toutes ces cachotteries? Demandai-je. Pourquoi n'avez-vous pas pris un cab et n'êtes-vous pas venu directement chez moi? Il ne me répondit pas que j'étais resté aussi obtus qu'obtus que jadis, mais il garda le silence quelques instants avant de prendre la parole sur un ton qui me fit comprendre ma bêtise. « Voyons, Benny, j'incarne actuellement 3 personnages. Le premier est au fond de la Méditerranée, le second est un vieil Australien qui a tenu à finir ses jours sur le sol de sa mère patrie. Quant au troisième, il n'a nulle envie de mourir. L'Australien ne connaît ici personne, il faut qu'il soit conséquent avec lui-même, sinon il sera brûlé. » Cette poule couveuse de Théobald est son seul ami et le connaît déjà plus qu'il ne convient, car il est difficile de lui jeter de la poudre aux yeux. Commencez-vous à comprendre? Il fallait, pour réussir, avoir l'air de vous prendre dans le tas et arriver à vous faire choisir par lui-même. Au commencement, il s'était opposé à mon projet. Il voulait tout entier à lui, bien entendu, et craignait de tuer la poule aux œufs d'or. Je me suis engagé à lui donner 5 livres par semaine tant qu'il me gardera en vie. et il doit se marier le mois prochain. Cette situation a des avantages et des inconvénients. Il aura besoin de plus d'argent qu'il ne prévoit, mais il pourra toujours nous être utile. En attendant, c'est moi qui le fais vivre. Je complimentais Raffles sur le style de sa dépêche et sur l'habileté avec laquelle il avait su résumer en quelques mots le caractère de mon parent. J'en profitais pour lui raconter comment celui-ci m'avait traité. Raffles n'en fut pas surpris. Nous avions jadis dîné ensemble avec le personnage, il avait pu le juger. Il m'apprit qu'il avait mis la dépêche dans une boîte aux lettres, en ayant soin d'indiquer l'heure à laquelle elle devait être expédiée du bureau de télégraphe le plus rapproché de Ville Street, la nuit même qui précéda l'apparition de l'annonce dans le Daily Mail. Tout avait donc été bien combiné, et Raffles n'avait rien à craindre, sauf que, malgré ses intentions bien précises, la dépêche me donna l'idée d'aller demander une explication à mon oncle. La chance avait favorisé son plan, qui, je le reconnais, ne comportait que le minimum de risques. Le plus grand danger, d'après Raffles, se trouvait dans la maison. Étant donné qu'il passait aux yeux de tous pour un malade ne pouvant quitter son lit, il avait toujours peur de tomber au cours de ses expéditions nocturnes entre les bras de Théobald. Mais Raffles avait trouvé un moyen, que j'indiquerai plus tard, de diminuer, sinon de supprimer tout à fait ce péril. En attendant, il me raconta plusieurs de ses aventures, d'ailleurs fort innocentes jusqu'ici. Je remarquai cependant un détail qui me frappa tandis qu'il parlait. Sa chambre était la première en entrant dans l'appartement. Elle se trouvait en face du vestibule et séparée du palier par l'épaisseur d'une cloison, ce qui lui permettait d'entendre de son lit tous les bruits de l'escalier. Dès qu'il entendait monter, il cessait de parler jusqu'au moment où le bruit des pas s'éteignait. Pendant l'après-midi, plusieurs candidats se présentèrent pour obtenir la place que j'avais moi-même sollicitée. Entre 3 et 4 heures, Raffles tira tout à coup sa montre et m'envoya chercher mes affaires à l'autre bout de Londres. « Je crains que vous ne mourriez de faim, Bunny. Moi, je mange fort peu et à des heures extraordinaires, mais je n'aurais pas dû vous oublier. Allez donc manger un morceau dehors. Mais si vous le pouvez, ne faites pas un vrai repas, car il nous faudra fêter cette nuit notre réunion. » « Cette nuit ? » m'écriai-je. « Oui, ce soir, à 11 heures, chez Kellners. Vous pourrez ouvrir les yeux. Mais si vous avez bon souvenir, nous n'avons guère fréquenté ce restaurant jadis. Et le personnel doit-il changer ? En tout cas, nous en courons la chance. J'y suis allé hier soir, je me suis fait passer pour un auteur américain, et j'ai commandé un souper pour ce soir, à 11 heures. » Vous étiez donc bien sûr de moi. Vous n'avez pas grand inconvénient à commander la soupe, mais nous mangerons en cabinet particulier, mais vous agirez sagement, en faisant un peu de toilette. Mais tous mes vêtements sont au monde-piété. Et combien vous faut-il pour tout payer et revenir ici de bonne heure avec vos bagages? Je dus faire le calcul. 10 livres suffiront. Ben voilà! C'est ce que j'avais mis de côté à votre intention. Allez, et ne perdez pas de temps. En passant, dites à Théobald que je vous ai accepté. Faites-lui connaître la durée de votre absence et rappelez-lui qu'on ne peut me laisser seul pendant ce temps-là. Ah, une idée. Prenez donc un fauteuil pour le théâtre du Lycéum à l'agence la plus proche. Il y en a 2 ou 3 dans High Street. En revenant, vous direz qu'on vous l'a donné. Il faut nous débarrasser du jeune homme cette nuit. Je trouvai le médecin dans son cabinet de consultation, en bras de chemise, avec un grand verre près de lui. J'eus à peine le temps de m'apercevoir qu'il se livrait sans doute à son vice favori, car il se hâta avec une simplicité enfantine de se placer devant l'objet compromettant afin de le dissimuler à mes regards. « Ah, vous avez donc obtenu la place que vous demandiez, » dit le docteur Théobald. Mais vous trouverez, ainsi que je vous l'ai dit, et vous avez déjà pu vous en apercevoir, que ce n'est pas une sinécure. En ce qui me concerne, voyez-vous, c'est la même chose, et bien d'autres que moi, en se voyant traiter comme je le fus devant vous, auraient jeté le manche après la cognée. Mais ce sont pas seulement les devoirs de ma profession qui m'obligent à rester. Un malade comme Monsieur Mathurin, on ne saurait faire trop de concessions.
Et quelle est donc sa maladie, lui demandai-je. Vous m'avez promis de me la faire connaître si je réussissais à rester ici.
Le docteur se borna à hausser les épaules d'un air plein de sous-entendus. Il m'était loisible d'en tirer telle conclusion que je voudrais. Il ne tarda pas à prendre une attitude plus raide. Si je m'exprimais comme un homme bien élevé, j'en étais pas moins à ses yeux un simple garde-malade. Il sembla se le rappeler tout à coup et ne manqua pas de me le faire sentir.
« Ben, je vous ai dit cela, répondit-il, parce que je ne soupçonnais pas que vous n'aviez aucune expérience de la fonction que vous désiriez exercer. Et je suis même surpris que M. Mathurin vous ait engagé. Il dépendra de vous que je l'autorise à vous garder. »
Et quant à sa maladie, mon garçon, il est inutile que je vous fasse part de mon diagnostic, qui serait de l'hébreu pour vous. De plus, je ne sais pas si vous êtes discret. Cependant, je puis vous faire connaître que ce pauvre gentleman est atteint d'un genre de maladie des plus graves et des plus ennuyeuses. C'est pour moi une lourde responsabilité que certaines particularités rendent encore plus pénibles à supporter. Bon, c'est tout ce que je puis vous dire de mon client, pour le moment du moins. Je vais monter le voir, si je puis trouver un instant. Il monta 5 minutes plus tard. Quand je rentrai à la nuit, il était encore là. Il accepta volontiers mon fauteuil pour le lycéum, fauteuil que Raffles ne me permit pas d'utiliser moi-même, et qu'il lui donna sans même m'en demander la permission. « Et surtout, ne venez pas me raser d'ici à demain !» cria Raffles au docteur quand celui-ci partit. « Je sens que je vais passer une bonne nuit. Si j'ai besoin de vous, maintenant que j'ai une garde, je vous l'enverrai chercher. » Profitant d'un moment de silence dans l'escalier, nous quittions sans bruit l'appartement à 10h30. Une surprise m'attendait sur le palier. Au lieu de descendre, Raffles monta 2 étages et nous nous trouvâmes tous les deux sur un toit formant terrasse. « Mais il y a 2 entrées à notre maison, m'expliqua-t-il, entre les étoiles et les tuyaux de cheminée, une par notre escalier et l'autre au coin de la rue. Mais il n'y a qu'un seul concierge. Il habite le rez-de-chaussée au-dessus de notre appartement et il n'a à surveiller que la porte sur laquelle donne notre escalier. » Et nous sommes sûrs de l'éviter en prenant par ici, et nous ne courons pas le risque de tomber dans les bras de cet excellent Théobald. C'est le facteur qui m'a dévoilé le truc, car il monte par un côté et redescend par l'autre. Maintenant, suivez-moi, et attention !» Il était en effet nécessaire de prendre garde, car le bâtiment avait plusieurs ailes, dont les prolongements ne laissaient entre eux que le vide et les rebords des toits. Nous parvînmes par ce chemin à l'ouverture de l'escalier conduisant à la seconde entrée et une fois descendus, nous sautions dans une superbe Hanson qui nous emportait rapidement.
« Londres n'a pas trop changé, Benny. Il y a encore plus d'annonces lumineuses. Par exemple, je trouve d'un goût déplorable cette nouvelle statue équestre avec ses éperons dorés. Pourquoi, diable, pendant qu'on y était, n'a-t-on pas noirci les bottes du cavalier et les sabots du cheval? Il y a aussi plus de cyclistes, naturellement. Ils commençaient à peine de notre temps, si vous vous rappelez. Voilà une invention qui aurait pu nous être bien utile. Tiens, nous voici en face de ce vieux club qu'on décore pour le jubilé de la reine. Nous devrions y aller, Bonny. Ne vous penchez donc pas en traversant Piccadilly, mon vieux. Si l'on vous reconnaissait, ça ferait songer à moi. Nous ferons bien ouvrir l'œil au restaurant Kellner's. Oh ben, nous voici arrivés. Vous ai-je dit que je passais ici pour un calotin yankee?
Tant que le garçon sera dans la salle, vous ferez bien de m'imiter. On nous fit entrer dans un petit cabinet au premier, et quoique connaissant mon Raffles sur le bout du doigt, j'éprouvais d'abord un frisson de terreur. Le couvert était mis pour trois personnes. J'appelai tout bas son attention là-dessus. Eh bien oui, dit-il en parlant du nez. Dites, garçon, la dame ne viendra pas, mais vous pouvez laisser son couvert. Puisque je paierai pour trois, je mangerai pour trois. Je n'ai jamais mis le pied en Amérique, et la nation américaine est la dernière que je veuille insulter, mais l'accent et l'intonation de mon ami étaient admirables. Je fus obligé de regarder Raffles pour être convaincu que c'était lui qui parlait, et j'avais toute raison pour être attentif. « Mais qui diable est cette dame ?» demandai-je dès que l'occasion s'en présenta. « Mais elle n'existe que dans mon imagination. Il n'aime pas me donner ce cabinet quand on n'est que deux. Voilà tout, Benny. Mon vieux Benny, allez, buvons à notre santé. » Nous choquâmes nos verres remplis d'un vin doré du Rhin datant de 1868. Je n'ose même pas décrire les splendeurs de ce souper. Ce n'était pas un repas plantureux, une vulgaire orgie, mais un de ces soupers fins et délicats dignes des dieux et qui fait se pâmer d'Ès Lucullus lui-même. Quelle fête que cet ineffable souper, pour moi qui ne mangeais plus que dans une gargote et qui en était souvent réduit à me serrer le ventre. Je ne manquais pas de lui faire remarquer que, depuis ma rentrée dans la société, j'avais fait tous mes efforts pour vivre honnêtement, mais qu'elle m'avait brutalement repoussé. J'allais continuer à lui conter mes malheurs quand l'apparition d'une bouteille de Château Margaux me ferma la bouche. Le garçon qui la portait présenta en même temps une carte sur un plateau d'argent. « Faites monter, » dit Raffles. « Qui est-ce ? » demandai-je dès que le garçon fut parti. Raffles se pencha par-dessus la table et me pinça énergiquement le bras, en même temps que ses yeux se fixaient sur moi. « Benny, restez avec moi, » dit-il de sa voix irrésistible d'autrefois, « et ouvrez l'œil, si se produit un accroc. » Avant que je puisse me ressaisir, la porte s'ouvrit. Un homme d'aspect élégant entre et nous fit un profond salut. Il était vêtu d'une redingote, portait un lorgnon d'or, tenait d'une main son impeccable huit reflets et de l'autre une sacoche en cuir. « Bonsoir, messieurs, » fit-il en souriant. « Asseyez-vous donc, » dit Raffles avec un fort accent américain. « Permettez-moi, » continua-t-il en me désignant, « de vous présenter M. Ezra B. Martin de Chicago, mon futur beau-frère. » Puis se tournant vers moi, « Je vous présente M. Robinson, directeur de la maison Sparks et compagnie, les célèbres joailliers de Regent Street. » Écoutant avec attention, je me bornais, pour toute réponse, à saluer d'un signe de tête. Je n'avais pas assez de confiance en moi pour jouer d'emblée mon nouveau rôle. « Oui, je vais espérer que Miss Martin aurait accompagné son frère, mais à mon grand regret, elle s'est trouvée quelque peu indisposée. » « Nous partons pour Paris par le train de 9 heures, demain matin, et elle a craint de se fatiguer. Oh, je suis désolé de vous causer cette déception, Monsieur Robinson, mais vous voyez que je fais valoir vos bijoux. » En même temps, Raffles tendait sa main vers la lumière électrique et faisait briller les diamants d'une bague qu'il portait à son petit doigt. J'aurais juré qu'elle n'y était pas 5 minutes auparavant. Le bijoutier eut l'air quelque peu désappointé, mais son visage se réjouit à la pensée sans doute de la valeur de la bague et du prix qu'il l'avait vendue. On m'invita à deviner le chiffre, mais je secouai discrètement la tête. Je n'ai jamais été si taciturne de ma vie. « 45 livres !» s'écria le bijoutier. « Même à 50 guinées, c'eût été donné !»« C'est vrai, » dit Raffles. « Oh, je l'ai eu à bon marché, mais je faisais payer comptant, ne l'oubliez pas. Je ne m'étendrai pas sur l'étonnement que me causait cet entretien. Tout ce que je puis dire, c'est que j'éprouvais un certain plaisir en retrouvant mon Raffles tel qu'il était autrefois. De nous deux, j'étais le seul à avoir changé. Je compris, au cours de la conversation, que ma sœur venait de se fiancer à Raffles et que ce dernier entendait la combler des plus beaux présents. Je ne pouvais pas comprendre comment Raffles s'était procuré la bague de diamants, mais évidemment, il l'avait payée et je me tuais à essayer de deviner quand et comment. Un geste du joaillier qui retirait de sa sacoche un flot de bijoux m'arracha mes réflexions. Ils brillaient devant nous dans leurs écrins comme les lampes électriques au-dessus de nos têtes, et tous trois nous nous penchions pour les mieux regarder. Je n'avais pas le moindre soupçon de ce qui allait arriver, mais je m'attendais à quelque acte de violence. Je n'avais pas fait 18 mois de prison pour rien. Allons-y, s'écria Raffles. Nous allons choisir pour elle et vous, vous en serez quitte pour changer ce qu'elle ne voudra pas. Entendu, n'est-ce pas? J'y pensais aussi, dit le joaillier. Allons, venez, Esra. Je pense que vous devez connaître les goûts de Sadie. Aidez-moi à choisir. Et Dieu sait si nous sûmes choisir. Que n'avons-nous pas choisi? D'abord une bague parée de diamants qui valait 95 livres. Et on n'insista même pas pour l'obtenir à 90. Puis une rivière de diamants, 200 guinées. Cela devait être le cadeau du marié. Le mariage était certainement imminent. Je devais jouer le rôle du frère et je m'efforçais de m'élever à la hauteur de la situation. Je vis donc l'idée qu'une étoile de diamants lui plairait fort, 116 livres. Mais aussitôt je réfléchis à haute voix que c'était plus que je ne pouvais donner, ce qui me fit recevoir d'ailleurs par-dessus la table un coup de pied vigoureux. Je n'osais plus ouvrir la bouche et je regardais avec dédain obtenir l'étoile pour 100 livres seulement. Enfin sonna le quart d'heure de Rabelais, car bien entendu nous ne pouvions payer attendant un chèque de New York. Mais messieurs, je ne vous connais pas, dit le bijoutier. Je n'ai même pas le nom de votre hôtel. Oui, je vous ai dit que nous étions descendus chez des amis, dit Raffles, qui, sans aller jusqu'à la colère, paraissait quelque peu agacé. Oh, c'est très bien, monsieur, c'est très bien. Je voudrais pour rien au monde que vous redoutiez un instant de perdre avec nous. Mais je cherche un moyen d'arranger les choses. Mais c'est bien ce que je désirais, dit le bijoutier, et du fond du cœur. La situation n'est évidemment pas la même que si je ne connaissais par la couleur de votre argent. Mais il y a certaines règles que je me suis juré d'observer. Ce n'est pas comme si je faisais l'affaire pour mon propre compte. Je suis sûr que l'agent de la compagnie est. Vous dites que vous partez demain matin pour Paris. Oui, par le train de 9 heures, dit Raffles. On m'a conté merveille du bijoutier de Paris, mais ne craignez rien, non. Je cherche toujours le moyen. Il fumait des cigarettes du plus haut prix. Le négociant et moi, nous avions pris des cigares. Aux sourcils froncés, à l'air soucieux de Raffles, je voyais clairement que son plan échouait. Je ne pouvais m'empêcher de trouver qu'il avait été bien naïf s'il s'était figuré d'obtenir un crédit de près de 10 000 francs en payant 10%. Mais cette pensée me paraissait bien indigne de mon ami, et je me tenais prêt, s'il le fallait, à sauter à la gorge de notre visiteur. Ben, nous pourrions nous envoyer de Paris un mandat télégraphique, dit enfin Raffles. Mais comment aurons-nous la certitude que vous nous enverrez les bijoux mêmes que nous avons choisis ce soir? Le joaillier se raidit sur sa chaise. La maison qu'il représentait constituait une garantie suffisante, dit-il. Je ne connais pas plus son nom qu'elle ne connaît le mien, dit Raffles en riant. Mais écoutez, j'ai une idée. Emballez les bijoux là-dedans. Il tirait les cigarettes de la boîte en fer blanc, tandis que le bijoutier et moi le regardions d'un air étonné.
« Emballez là-dedans les bijoux que nous avons choisis. Vous occupez pas des écrins et enveloppez les joyaux dans de la ouate.
Nous allons demander de la ficelle et de la cire. Nous scellerons le tout ici et vous l'emporterez avec vous. Dans 3 jours, nous aurons reçu notre argent. Nous vous enverrons le mandat télégraphique et nous vous adresserez cette boîte avec mon cachet intact. C'est pas la peine de me regarder avec cet air étonné. Vous ne voulez pas avoir confiance en nous, alors pourquoi nous ferions-vous plus de crédit? Sonnez donc, Esra, et demandez de la ficelle et de la cire. » La chose ne traîna pas. Mais tout cela ne plaisait pas au joaillier. La précaution était bien inutile, disait-il. Mais à la réflexion qu'il garderait ses bijoux par-devers lui, vendus ou non, ses objections disparurent. Il emballa la rivière, la bague à l'étoile dans de la ouate. La boîte de cigarettes les contenait si aisément qu'au dernier moment, quand elle fut fermée et prête à ficeler, fut l'idée, envie d'y ajouter une broche en diamant de 51 livres. Il réussit à résister à cette tentation au grand dépit du marchand. La boîte de cigarettes fut enfin ficelée, scellée avec la bague achetée et payée par mon ami. Je cours la chance que vous ayez dans votre magasin une autre bague exactement semblable à la mienne, dit Raffles en riant, étendant la boîte au marchand qui la glissa dans sa poche. Et maintenant, monsieur Robinson, j'espère que vous apprécierez ma délicatesse de ne vous avoir point offert de trinquer avec nous pendant que nous étions en affaire. Tenez, voici du château Margaux, qui, vous croyez-le, c'est 18 carats. Permettez-moi de vous en offrir. Dans le cab qui nous ramena aux alentours de notre appartement, Raffles m'arrêta quand je voulus lui poser des questions que le conducteur aurait pu entendre, et j'en fus quelque peu contrarié. Je ne pouvais comprendre le but qu'avait poursuivi Raffles en traitant avec le joaillier de Regent Street, et je brûlais de tout connaître. Cependant, je me tins quoi jusqu'à notre rentrée, qui s'effectua avec les mêmes précautions que notre départ, et même à ce moment, je gardais le silence, lorsque Raffles me mit la main sur l'épaule et me regarda en souriant. « Eh bien, mon vieux, dit-il, pourquoi vouliez-vous pas attendre jusqu'à notre retour ici? Vous ne pouviez donc pas me dire ce que nous allions faire comme autrefois? Oh, vous valez encore votre pesant d'or pour l'innocence. Vous ne saurez jamais profiter d'une occasion. Vous aviez l'air aussi étonné que ce pauvre diable de joaillier. Mais vous n'auriez pu garder la même attitude si vous aviez pu lire dans mon jeu. Eh bien, mais que s'est-il donc passé? Ceci, dit Raffles en posant la boîte de cigarettes sur la cheminée. Elle n'était ni ficelée, ni scellée, et il ouvrit immédiatement. J'y trouvais la bague de 95 livres, la rivière de 200 livres et l'étoile de 100 livres. Toutes les trois étaient posées sur la ouate du bijoutier. « Ah, oh, vous aviez donc 2 boîtes » m'écriai-je.
« Eh oui, j'avais 2 boîtes, mon brave Benny. L'une préparée et pesée se trouvait dans ma poche. Je ne sais pas si vous avez remarqué que j'ai tenu les 3 bijoux dans ma main. Et ni vous ni lui ne m'avez vu changer les boîtes. Je l'ai fait au moment où j'ai parlé d'acheter une broche. Vous étiez-vous trop étonné et le joaillier trop préoccupé pour vous en apercevoir? Oh, c'était l'instant délicat. Pour acheter la bague que j'ai payée, il m'a fallu hier expédier sous un prétexte quelconque ce brave Théobald à Southampton et me rendre en plein jour à Regent Street. C'était là une grosse chance à courir, mais l'enjeu en valait la peine. Elles sont jolies, ces boîtes, n'est-ce pas? Je voudrais bien qu'elles eussent contenu de meilleures cigarettes, mais il me fallait une marque bien connue. Une boîte de Sullivan m'aurait fait découvrir dès demain.
Mais il n'ouvrira pas la boîte demain. Oh non, probablement. En attendant, Bunny, c'est vous qui vous chargerez d'écouler tout cela. Oh, je suis prête à tout. J'étais sincère, je le jure. Ce qui n'empêcha pas Ralph, suivant son habitude, de me regarder bien en face. Je sentis son regard d'acier s'appesantir sur moi. Mais l'impression qu'il éprouva dut le satisfaire mieux encore que mes paroles, car il me serra une main avec enthousiasme qui n'était pas dans son caractère. Je le sais, dit-il, et je pensais bien qu'il en serait ainsi. Mais rappelez-vous, Bunny, que c'est à mon tour, la prochaine fois, de payer la casse.